Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et ce matin, on va parler d'Hollywood. Hollywood, son âge d'or, ses stars, son système impitoyable et sa face cachée racontée par deux documentaristes françaises. Les sœurs Julia et Clara Kupperberg ont une trentaine de films à leur actif, autour bien sûr de l'histoire du cinéma américain. Et là, dernièrement, un beau coffret réunissant 10 de leurs documentaires vient de sortir aux éditions Montparnasse. Il est absolument indispensable. Un peu d'histoire et beaucoup de glamour, ou plutôt le contraire, on est sur France Culture quand même, autour du cinéma américain, de sa naissance et de ses premières années. C'est au programme du Réveil culturel. Réveil culturel concocté avec Corinne Amard, ce matin à la technique Marie Le Peintre, une réalisation de Vincent Abouchard.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Et c'est une passion pour vous, le cinéma américain. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Les sœurs Kupperberg, on vous appelle Julia et Clara ou bien les sœurs Kupperberg maintenant? Maintenant, depuis le temps que vous allez à Hollywood, parce que maintenant, ça y est, vous êtes connue à Hollywood.
On est connue à Hollywood, maintenant, on pense même qu'on est américaine, ce qui est très rigolo, alors qu'on est née en France et qu'on est française 100%. Et on nous appelle les sœurs Kupperberg.
Bon, ben voilà, ben, je vais continuer à vous appeler comme ça. Donc, un coffret qui a pour titre « Il était une fois à Hollywood », c'est votre passion, parce que vous enquêtez sur ces premières années d'Hollywood. Alors, d'où vous est venue d'abord cette passion pour le cinéma américain, et puis cette idée de faire l'histoire et de réunir les archives et d'essayer de raconter comment est née cette industrie du cinéma?
Alors, on est des passionnés de cinéma américain depuis toujours. On a été élevés dans le cinéma américain. C'était une passion familiale. Donc,
C'est-à-dire, on allait au cinéma ou on regardait le ciné-club de France 3?
Exactement.
De FR3 à l'époque.
Ouais. FR3. Ouais. Voilà, on avait le droit de regarder, pas de se coucher. Et on regardait énormément de films, des VHS à l'époque. Et donc, voilà, on a baigné là-dedans. C'est une passion, voilà, qu'on a gardée. Et quand on a commencé à travailler dessus, en fait, un film en entraînant un autre, ce qui nous a passionnés, c'était de recontextualiser toujours le cinéma américain dans son histoire, donc dans son histoire politique ou sociologique. Donc d'avoir comme ça une toile de fond toujours sur la grande histoire racontée par le glamour américain.
Bon, on vient d'écouter Clara. Julia ?
Julia, alors, ouais. Ce qui nous plaît énormément avec le cinéma américain, c'est que c'est pour nous le seul cinéma qui reflète autant la société américaine. C'est-à-dire que vous regardez un film, vous pouvez savoir quel président est à ce moment-là aux États-Unis, quel est le contexte social, quel est le contexte politique, comme disait Clara, de l'époque. Et c'est vrai que le cinéma français, asiatique, italien, c'est pas pareil. C'est pas autant le miroir que le cinéma américain l'est de sa propre culture.
Ou du moins le cinéma américain à ses débuts.
À ses débuts, tout à fait.
Dans ce coffret, Il était une fois à Hollywood, vous parlez aussi bien du sexe, voilà, avec tout le code Haynes et tout ça, vous allez nous l'expliquer, de la place des femmes. La guerre froide est très présente aussi dans un de vos documentaires, puisqu'il y a quelques comédiens, quelques stars, je peux le dire, qui ont joué un rôle très déterminant dans cette guerre. D'ailleurs, votre documentaire s'appelle Les espions qui venaient d'Hollywood. Vous mélangez le très sérieux, le très sociopolitique avec du glamour, et vous avez consacré un numéro à ces deux grandes commères d'Hollywood qui ne faisaient peut-être pas la carrière des stars, mais qui pouvaient les défaire. Hein, je parle bien sûr de
qui? Ella Hooper et Lula Parson.
Lula Parson. Et puis donc, la place de la femme, le cas Ronald Reagan, parce que c'est quand même un comédien d'Hollywood, un produit d'Hollywood qui va devenir président. Vous parlez bien sûr de la censure, de Los Angeles, comment Los Angeles va devenir le cadre d'un cinéma noir. Orson Welles est très présent. Et vous avez quelqu'un qui vous aime bien et qui vous aide beaucoup, c'est Martin Scorsese. Comment vous l'avez rencontré ?
Martin Scorsese, en fait, la première fois qu'on l'a rencontré, on a fait un documentaire sur lui et la musique dans ses films, en fait. C'était le point de départ. Et puis on a sympathisé, c'est un fou de cinéma. Voilà, il est passionné de cinéma, de restauration et surtout de toujours transmettre quelque chose, transmettre un héritage, une culture, garder ça en mémoire quand même. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le sollicite, il répond présent. Donc on a de la chance.
Il a même ouvert son carnet d'adresses, je suppose.
Il nous a ouvert son carnet d'adresses. Il est passionné, enfin on a quand même beaucoup de sujets qui nous passionnent en commun, notamment Gene Tierney dans lequel il est, ou Orson Welles, voilà. Donc il a une générosité quand même immense, et puis il est merveilleux quoi quand il parle. C'est vrai, on est subjugué parce que il a un tel amour pour le cinéma et puis une telle excitation encore aujourd'hui pour en parler, que c'est magique quoi, avoir Martin Scorsese dans un doc, c'est génial quoi. passe.
Alors ceux qui ont la télévision, ceux qui suivent les programmes d'Arte ou d'Orange, ont peut-être vu vos films. Les autres, comme moi, vont les découvrir dans ce coffret, Julia et Clara Kupperberg. Alors que votre travail est très passionnant parce que c'est un travail d'archiviste. Il y a beaucoup d'archives hein, que vous commentez, que vous remettez en contexte. Mais il y a aussi votre enquête, il y a aussi une enquête journalistique.
C'est vrai que ce qui nous importe, c'est de contextualiser. C'est très important. On ne veut pas faire des documentaires que sur le cinéma analytique ou sur une actrice ou un portrait, sans le situer dans le contexte de l'époque. Parce que nous, ce qu'on adore, c'est l'histoire. Et on adore l'histoire américaine. On est fascinés par elle. Et on se sert parfois du cinéma pour parler de l'histoire.
Donc on peut trouver les archives. Est-ce que ça coûte cher d'ailleurs d'avoir les archives que vous avez eues pour vos films?
Oui, ça coûte cher. Les archives. Ouais, bon. Ça coûte cher, ça se négocie, mais ça coûte cher, oui. Donc c'est un budget dans le film. C'est vrai que nous, on a un gros budget, parce qu'on aime beaucoup travailler avec des archives. On trouve que ça donne justement une force incroyable aux propos. Et donc voilà, c'est un budget qu'on impute à ça, mais en même temps...
En même temps, ça vaut le coup, parce que... Puis on n'est que deux, donc... Tout l'argent passe dans l'achat d'archives. C'est un choix qu'on a fait aussi avec Clara au début. On s'est dit, on travaille que toutes les deux, on fait tout. On produit, on réalise, on monte, on écrit. Et on met l'argent alloué à ces postes dans les archives et les achats d'archives.
Et après, à partir de ces archives, vous construisez vos histoires, vos films, vos documentaires.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Que souvent les archives nous introduisent à une nouvelle idée, même à un nouveau film carrément. C'est vrai que par exemple,
ce ne sont pas des films de commande, hein.
Non, jamais. Ce sont des idées qu'on a et qu'on propose. Et c'est vrai que souvent une archive va déclencher un film. C'est vrai que ça arrive souvent. Notamment dans Les Espions, en fait, à Hollywood, on a découvert des images incroyables, justement, du parti nazi qui avait pignon sur rue aux États-Unis jusqu'aux années 36. On a découvert aussi toute l'histoire sur les Japonais et les camps d'internement aux États-Unis. On est en train de finir un doc dessus. Donc, souvent, c'est vrai que le travail d'archives nous donne de nouvelles idées, en fait, de nouvelles pistes.
Et ce sont des documents déclassifiés. Par exemple, quand on apprend que des stars ont été surveillées par d'autres stars parce qu'elles étaient fortement soupçonnées de travailler pour l'ennemi. Tout ça, ce sont des documents du FBI, de la CIA que vous avez retrouvés?
Oui, c'est des documents qui ont été déclassifiés il y a quelques années maintenant. Et alors, ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est la naissance de l'OSS, qui était la première, qui est la CIA, en fait, aujourd'hui. Et on est avant Pearl Harbor. Les États-Unis n'ont pas d'agence d'espionnage, n'ont pas d'agence de renseignement. Il y a le FBI pour le fédéral, mais à l'international, il n'y a pas d'agence. Et il crée l'OSS. Et il décide, c'est pour ça qu'on est tombé amoureuse de ce sujet, d'engager des acteurs connus de l'époque, Gary Grant, Marlène Dietrich, Greta Garbo, pour partir espionner en Europe. Parce que eux pouvaient voyager.
Pas seulement en Europe. Gary Grant était un espion chargé de surveiller Errol Flynn.
Oui, Errol Flynn qui était suspecté d'être un sympathisant nazi. Et donc, Cary Grant avait comme mission de le surveiller. Et c'est très drôle parce que Cary Grant joue lui-même un espion la journée et le soir, espionner réellement dans sa vie réelle, Errol Flynn.
Ça c'est vraiment consacré autour de la guerre froide. Hein. Peut-être qu'il y aura un autre numéro qui sera consacré à ce qui s'est passé après cette période, c'est-à-dire la liste noire. Mais il y a d'autres thématiques que vous développez, par exemple le sexe à Hollywood.
Uncontrolled sexual behavior usually is a sign of an immature and insecure person.
Pourquoi une femme aujourd'hui est-elle encore en soutien-gorge quand elle fait l'amour dans beaucoup de films américains? Pourquoi la sexualité est-elle aussi taboue?
It's nice.
40 ans après la révolution sexuelle et l'émancipation des femmes.
In American movies, I think women often don't feel good about sex.
Your clitoris is deep down in the bottom of your throat.
The women are often punished on screen for sexual feelings or sexual activities.
Les femmes, le sexe et Hollywood. Un ménage à trois explosif, sulfureux et brûlant d'actualité.
Et c'est dans un des films qu'on trouve dans le coffret « Il était une fois Hollywood » des sœurs Clara et Julia Kupperberg, qui a pour titre « Hollywood, pas de sexe s'il vous plaît ». Qui vient-on d'entendre?
On vient d'entendre en fait Linda Williams qui a écrit un livre sur la représentation du sexe dans le cinéma américain en fait. Et elle est partie de ce constat que un petit peu comme ce qu'on raconte dans le documentaire, que finalement la sexualité américaine est toujours un sujet tabou et qu'elle a beau s'exprimer à travers la violence, la révolution féministe et la révolution des années 70 n'a pas changé grand-chose.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Le Code Hays est venu changer un cinéma qui était très libre et qui donnait la belle part aux femmes, d'ailleurs.
Tout à fait. Ouais, ce qu'on appelle les films pré-code, en fait, où alors là, tout était permis. On pouvait voir Marlène Dietrich nager toute nue dans un lac.
Mae West,
ou des mariages à trois. Enfin, vraiment. Et puis, là, les ligues de vertu se sont affolées à Hollywood. On est au début des années 30. Et le contexte social est difficile. Il y a la dépression. Et là, Hollywood a pris une décision qui était quand même incroyable. C'est de s'auto-censurer. C'est pour pas tomber sous le coup d'une censure qui allait être gouvernementale, enfin fédérale. Ils se sont dit, on va engager un type, un lobbyiste, le sénateur Hays, et on va réguler tout ça et s'imposer un code de censure, et qui aura duré jusqu'en 66, officiellement.
Vous êtes aussi féministe parce que vous avez réalisé un film sur le rôle des femmes à Hollywood, un documentaire joliment titré « Et la femme créée à Hollywood », et c'est un inventaire de toutes ces femmes pionnières oubliées.
Mais oui, on ne connaissait pas, mais nous-mêmes, on ne connaissait pas. On a fait des études de cinéma, on a fait 30 docs sur le cinéma américain, et on a découvert ces femmes et cette histoire qu'Hollywood a été créée au début du siècle par des femmes.
Que le premier film parlant a été fait par une femme, Alice Guy.
Oui, Alice Guy qui était française, par ailleurs, et qui était la secrétaire de Gaumont, et c'est la première femme, mes premiers êtres humains, j'ai envie de dire, à avoir réalisé un film tout court narratif. Parce qu'avant, c'était des scènes de vie ou comme la sortie de l'usine, par exemple, du Frère Lumière, mais il n'y avait pas de narration. Et Alice Guy Blacher est la première à faire un film narratif. Et elle a été oubliée, effacée de l'histoire.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Comme dans un film de la métro, on voit très bien tous les détails. Des bonnes sœurs font leur numéro dans un voilier sans gouvernail. Des milliardaires américains s'en vont doucement vers le port, avec des copains saoudiens qui vont très bien dans le décor. Comme dans un film de la métro, le soleil se couche sur l'eau, sous l'œil des serveurs chicanos qui se marrent avec les cuistots. Des stars adorées du public traînent leur spleen intéressant vers des paradis super chics où l'on dégueule entre gagnants. Comme dans un film de la métro, les marins se perdent et se damnent pour des pin-ups assez salauds avec des yeux couleur butane. Quelques tarzans dénaturés jettent leurs cigares allumés pour mieux explorer le point G des petites jeans. Allez, allez! Comme dans un film de la métro.
10 films, 10 documentaires, 5 DVD, un coffret. Il était une fois Hollywood par les sœurs Clara et Julia Kupperberg vient de sortir aux éditions Montparnasse. Vous qui écrivez l'histoire du cinéma américain, vous êtes devenu même des références aux États-Unis puisque vous racontez qu'aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, c'est vous-même qui apprenez plein de choses aux Américains sur l'histoire de cette grosse industrie qu'est Hollywood. Et parmi les films qu'on peut voir, parmi ces documentaires que vous avez réalisés et qu'on peut voir, un est consacré à Ronald Reagan. Alors, on se dit, oui, c'est vrai que Ronald Reagan a profité d'Hollywood pour se faire connaître jusqu'à devenir le 40e président des États-Unis. Vous rajoutez une information de taille. Passer par Hollywood, c'est bien, mais avoir des contacts avec la mafia, c'est mieux pour arriver à la Maison-Blanche. C'est incroyable ce documentaire que vous avez réalisé.
C'est une histoire incroyable parce que Ici, on part du constat que Ronald Reagan était un président, enfin un abruti, en gros, un acteur de série B qui est devenu un petit peu président par hasard. Quand même, c'est l'image qu'on en a. Et en fait, c'est un type très brillant. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'était un type très brillant qui devient un acteur effectivement de série B, mais qui se laisse prendre en main par le plus grand agent d'Hollywood à l'époque qui s'appelle Lou Wasserman.
Pourquoi ? Parce qu'il est syndicaliste ? Parce que déjà, il se fait remarquer en tant que syndicaliste au milieu de cette usine à rêve ?
Oui, alors il devient vite d'ailleurs président du syndicat des acteurs, qui est le syndicat le plus puissant d'Hollywood. Il y fait la plus grosse arnaque de l'histoire d'Hollywood.
C'est-à-dire, racontez-nous, vous êtes dans
fait,
le film, oui.
Il vole tous les acteurs de leurs droits télévisuels. Donc voilà, en leur prétextant que l'industrie va mal, qu'il faut céder, etc. Mais tout ceci, en fait, au profit de son agent, de l'agence artistique de son agent, qui obtient ainsi une espèce de monopole, en fait, sur tout le marché et sur tout le business. Donc, c'était totalement illégal à l'époque. Mais donc tout le monde s'enrichit, lui devient millionnaire et en fait il se fait élire comme ça petit à petit au syndicat des acteurs d'Hollywood et puis c'est la première étape pour devenir gouverneur de Californie. Et en fait ces hommes-là qui sont dans l'ombre, notamment Sidney Korshak, qui était l'avocat aussi bien de son agent que de Ronald Reagan, est connu pour être l'avocat de la mafia. En fait il était le go-between entre la mafia de Chicago et Hollywood.
Voilà, quand les gens avaient les yeux braqués sur Frank Sinatra et ses relations avec le milieu, en fait, compte, c'était Ronald Reagan, le vrai représentant de la mafia qui arrive jusqu'à la tête de la présidence des États-Unis.
Bien sûr, et bien plus important que Sinatra, qui était comme ça. On l'appelait le valet de la mafia, Sinatra. Il aimait bien avoir des relations un petit peu sulfureuses. Mais il n'a jamais eu un rôle important, finalement. Alors que Reagan, il est quand même devenu président.
C'est beaucoup d'enquêtes pour arriver à réaliser ces films. Alors, il y a bien sûr, vous l'avez raconté en début d'émission, toute cette partie où vous allez à la pêche aux archives, hein, c'est-à-dire récupérer des images parce que vous faites des films, donc récupérer le maximum d'archives, négocier les droits, et puis ensuite, est-ce qu'il y a de l'enquête journalistique, de l'investigation ?
Oui. Oui, beaucoup. C'est vrai, en plus, on connaît maintenant, on a rencontré beaucoup de journalistes qui ont fait les investigations à notre place et qui nous disent souvent, mais vous avez énormément de chances d'être encore vivante. Vous vous attaquez à des sujets qui sont aux États-Unis plus que tabous. Dire qu'un de leurs présidents a été élu par la mafia. On a fait un documentaire sur l'avocat de la mafia, sur la mafia qui a infiltré les studios à Hollywood. Et c'est vrai que... C'est vrai que les enquêtes durent entre 6 mois et 1 an pour chaque documentaire avant de partir le tourner.
Donc de temps en temps, vous permettez des sujets un peu plus légers, mais qui sont tout aussi emblématiques, par exemple autour de Louella Parson et Ada Hopper, qui étaient vraiment les deux vipères d'Hollywood. C'était des chroniqueuses pour la presse People. Elles pouvaient vraiment faire du mal à qui ne leur plaisait pas, on peut le dire.
Ah ben carrément, elles ont détruit des carrières. Hein. Et puis elles ont quand même poussé Chaplin à s'exiler. Enfin, elles étaient coriaces. Hein. Alors il y a eu en premier Louella Parson. Une petite bonne femme, comme ça, bon, pas trop méchante, pas très sympa, mais bon.
On pouvait négocier avec elle.
Voilà, bon, quand même. Et puis, c'est Louis B. Mayer, quand même, le patron de la MGM, qui en avait marre qu'elle ait le monopole, en fait, du ragot à Hollywood, et qui s'est dit, il lui faut une concurrente. Donc, il a fait venir une ancienne actrice, parce qu'au départ, elle était actrice, Ada Hopper.
Avec toute la rancœur que peut avoir une femme qui aurait aimé être actrice et qui n'a pas pu.
Qui était une actrice ratée.
Bah voilà, arriver à assez fin. Elles vont être aussi utilisées par le système hollywoodien, bien sûr. C'est de gossip.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le système se nourrissait d'elles parce que leur transmettait aussi les informations, notamment les studios, que les studios avaient envie de faire sortir et puis se servaient d'elles pour pousser les carrières qui étaient un peu défaillantes ou pour détruire les carrières qui étaient gênantes aussi. Ou pour étouffer des histoires aussi dérangeantes.
Elles acceptaient de
Elles acceptaient quand elles avaient autre chose en retour, en fait.
C'est pour ça qu'elles ont épargné Rock Hudson et surtout son homosexualité qui était connue, mais bon, là... Les studios ont tout fait pour faire taire. Ils ont même négocié quand même. Ils ont donné d'autres informations.
Ah oui, on s'asmonnayait, oui.
Ah, s'asmonnayait.
C'est ça. Je te détruis un tel, mais tu me sauves l'autre.
Bon, et puis vous vous êtes intéressé aussi à Orson Welles dans un film qui s'appelle This is Orson Welles.
Orson Welles, bah, le monstre, hein, le monstre sacré du cinéma. Alors là, c'est avec l'aide de Martin Scorsese pour le coup. ouais. qui est un énorme fan. Et lui nous a énormément aidé pour le film. Et,
il vous a donné le contact de Peter Bogdanovich, de la fille Wells.
Oui, il nous a introduit.
Ouais, parce qu'ils sont tous présents et c'est vrai que leurs témoignages sont très éclairants. Ouais.
Oui, et alors on voulait faire un documentaire sur Orson Welles, c'est vrai, sur son cinéma, mais surtout sur l'homme. Et donc on a acheté une interview de lui où il est super touchant. Et non seulement vous aimez ses films, mais vous tombez vraiment sous le charme de l'homme. Et il est très très émouvant. Et ce film a été à Cannes, il a été sélectionné à la section Cannes classique. Et ça nous a beaucoup aidé. Et c'est un film qu'on aime beaucoup. On est très touchés par ce film parce que c'est un des, voilà, c'est un de nos premiers succès. Et Orson Welles, je vous disais, c'est intouchable et très peu connu aux États-Unis malheureusement.
Alors, est-ce que vous avez une méthode de travail? Qui fait quoi dans ce duo de sœurs, Julia et Clara Kupperberg?
Qui fait quoi? On se pose encore la question, je crois, ça dépend des jours, de comment on est luné.
L'humeur de l'une.
Je dirais qu'on fait tout à quatre mains. On fait tout. On trouve les sujets, on les écrit. On part les tourner, on les vend aux chaînes, on se bat parfois un peu pour eux parce qu'il y a certains sujets qui sont plus ou moins populaires.
Sujet qui a été plus ou moins refusé ou que vous avez eu du mal à imposer, par exemple?
C'est étonnant, mais c'est celui sur les pionnières, les femmes. Les femmes au début du siècle qui ont créé Hollywood parce que personne ne nous croyait. Parce qu'il n'existait rien. On est en 2015, 2014 quand on commence les recherches. Et là, aujourd'hui, il y a plein de choses sur ces femmes. Voilà, parce que plein de gens ont sorti des livres avec le mouvement MeToo notamment. C'est sorti. Mais nous, à l'époque, c'était complètement méconnu et les gens nous traitaient de mythomanes. Et on a eu beaucoup de mal à trouver des gens pour témoigner. Et il a été très difficile.
D'ailleurs, il n'y a pas un homme dans le documentaire.
Ouais. Que vraiment, bah oui, oui, bien
sûr. Pas voulu, mais pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'on se faisait traiter de mytho, oui.
Ça a été très dur de oui, parce qu'il y avait tous les cinéphiles qui se sont sentis attaqués, parce que ces femmes ont été vraiment effacées de l'histoire du cinéma dans les années 40, parce que l'histoire a été écrite par les hommes, l'histoire du cinéma a été écrite par les hommes dans les années 40. Nous, on n'y est pour rien, mais c'est... Et donc, c'est vrai que ces femmes n'apparaissent nulle part.
Est-ce que votre écriture de documentariste s'inspire de ce que vous avez vu ou d'un auteur? Je vous parlais juste avant l'émission de cette série culte des années 80, cinéma. Est-ce que ça comptait pour vous? Est-ce que vous avez beaucoup réfléchi sur l'approche que vous alliez développer tout le long de ces films que vous avez réalisés, une trentaine autour du cinéma hollywoodien?
On retrouve un petit peu toujours le même style, j'ai envie de dire. Et en fait, il est essentiel pour nous que ce soit des sujets, même s'ils sont super pointus, qui soient accessibles à tout le monde, et pas qu'aux cinéphiles. Voilà. Donc parfois, ça plaît pas aux cinéphiles, justement, mais nous, on veut surtout pas faire des documentaires pour cinéphiles, et pour... L'idée, c'est que les gens qui regardent ces documentaires, ils n'y connaissent rien, et qu'à la fin de ces 52 minutes, ils aient envie d'en connaître plus, et surtout d'aller voir les films dont on parle. Voilà. Et donc nous, on est vraiment obsédés par le rythme, par justement que...
Par les voix off.
Les voix off, oui. Qu'il n'y ait pas de temps mort, que ce soit accrocheur sans que ce soit non plus racoleur, c'est pas la même chose, mais que ce soit toujours que le spectateur soit tenu en haleine et que voilà, qu'il ne s'ennuie jamais en fait.
Oui, c'est le mot d'ordre, hein. C'est notre obsession d'ailleurs pendant le montage, est-ce qu'on s'ennuie? Alors toutes les 5 minutes, on se pose la question, est-ce qu'on s'ennuie? Mais c'est super important parce que effectivement, on se fait taxer souvent, on nous dit qu'on est classique dans notre approche. Et nous, on prend ça comme un compliment parce que il y a rien de plus dur, que de faire du classique attrayant. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire.
Alors vous êtes en train de travailler sur Hollywood là, par exemple, sur un autre sujet?
On en fait 3 là en ce moment.
Ouais. Ah oui, c'est ce que vous m'aviez dit quand vous allez aux États-Unis, vous en profitez pour tourner pour plusieurs numéros.
C'est ça, on en fait 2 ou 3 et puis on rapporte le matériel et puis on se met en montage pendant plusieurs mois. Mais voilà, ça permet d'optimiser le temps de tournage.
Alors, ramener de votre dernier voyage en Amérique?
C'est une bonne fournée en plus celle-ci. Oui. On vient alors Max Factor, qui c'était le maquilleur des stars. C'est le héros des stars. Il se faisait appeler comme ça. C'est lui qui prenait Judy Garland, qui était un vilain petit canard, et qui a fait d'elle une sublime rousse. C'est le blond de platine de Marilyn. C'est les sourcils de Marlène Dietrich. C'est la bouche de Clara Bow.
Deuxième sujet,
Gary Cooper, un portrait sur lui. Alors là, pareil, on adore tous Gary Cooper, mais là, on a trouvé l'interview de lui où il est sublime. Alors non seulement il est beau, mais en plus il est émouvant. C'était quelqu'un de très touchant, très timide, mais très touchant. Et le troisième, c'est sur les
Japonais. Oui. Vas-y. Alors, ça, c'est on a fait le documentaire sur les espions et on est tombé sur les images des camps d'internement japonais, voilà, sur la côte ouest américaine. Et on est parti de ce point de départ et on s'est dit, c'est incroyable parce que cette histoire est taboue aux États-Unis. 110 000 Japonais ont été internés dans des camps à ce moment-là.
On avait les photos de Dorothea Lange.
Absolument, en ce moment, en jeu de paume. Ouais, ouais, tout à ouais, fait.
Et vous avez trouvé des documents filmés.
Voilà, c'est ça, des archives des camps, des cars qui emmènent les Japonais, enfin des images incroyables. Et on s'est dit, il faut faire un documentaire là-dessus. Et on le fait par le prisme du cinéma, montrer comment Hollywood, qui est toujours quand même un médium de propagande, s'est servi aussi des films et que la figure du Japonais a évolué, que ce soit pendant la guerre, donc juste après Pearl Harbor, pour convaincre aussi l'opinion publique, et comment il a fallu switcher cette image en une image de Japonais sympathique en 47 avec la guerre froide, où il fallait que le Japon redevienne l'allié des États-Unis.
Incroyable. On attend ça avec impatience. Mais en attendant, il y a ce coffret. Il était une fois Hollywood. Merci beaucoup, Clara et Julia Kupperberg, d'être passés ce matin nous en parler.
Merci à vous.
We'll be right back.